les Français sont assez stressés. Il y a une hôtesse qui a son gant s'est fait percer tout de suite. Elle a hurlé à une collègue de lui remplacer ses gants.
La mise en place à Roissy depuis ce matin d'une équipe médicale aux arrivées des vols en provenance de Chine et des passagers partagés, vous l'entendrez, sur l'intérêt de ce dispositif dont l'idée est de prendre en charge d'éventuels cas douteux. Pour l'instant, rien d'inquiétant en France avec 3 personnes touchées par le coronavirus et qui se portent très bien. C'est le principe de précaution qui prime, comme pour la décision prise par la mairie de Paris. Anne Hidalgo a décidé d'annuler les festivités du Nouvel An chinois dans la capitale. C'est ce qu'elle a annoncé ce matin sur Europe 1.
Il faut ne pas céder à la panique et puis respecter aussi la décision des associations chinoises de Paris qui n'avaient pas vraiment le cœur à la fête.
Nous verrons qu'en Chine, la situation est plus préoccupante avec 2000 personnes contaminées, 56 morts et les autorités qui multiplient les mesures pour éviter la propagation du virus. Dernier exemple, dans la province la plus peuplée de Chine, le port du masque est désormais obligatoire. Aux États-Unis, la parole qui était aux avocats de Donald Trump hier pour son procès en destitution, et le président leur avait dit de faire court, c'est ce qu'ils ont fait.
The president did absolutely nothing wrong.
Le président n'a rien fait de mal, dit son avocat, toujours dans le journal de la mi-journée. Un témoignage pour l'histoire à l'occasion des 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Ginette Kolinka, rescapée, 95 ans, qui accompagne chaque année des lycéens sur place, sera mon invitée. Le journal des sports avec Roger Federer en difficulté à l'Open d'Australie dans le premier set. Ça va mieux dans le deuxième. Et puis la météo avec de la pluie sur le sud, nous dira Valérie Darmon.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ce sont donc des nouvelles rassurantes que l'on a eues hier soir pour les 3 personnes hospitalisées infectées par le coronavirus en France. Elles vont très bien, dit le directeur général de la Santé. Pour autant, pas question de baisser la garde. La priorité est d'éviter toute propagation, d'où la mise en place depuis ce matin à l'aéroport de Roissy d'une équipe médicale au niveau de l'arrivée des passagers en provenance d'Asie pour les prendre en charge immédiatement s'il y a le moindre doute. Marion Gauthier, vous êtes à Roissy pour Europe 1 et ce sont des passagers, on va dire partagés, sur la pertinence de ce dispositif que vous avez croisé ce matin.
Oui Fabienne, il faut dire qu'au total ce sont 46 médecins qui accueillent tous les passagers venus de Chine. Jade, partie de Pékin pour reprendre son semestre à Paris, n'en a pas croisé un seul.
Je crois que le gouvernement français fait pas trop de choses parce qu'au début en Chine, tout le monde croit que c'est pas très important, mais maintenant il y a trop stressé.
Et pour le moment, des médecins de la Croix-Rouge, de l'Agence régionale de santé, des infirmiers à la descente des avions demandent aux voyageurs s'ils se sentent bien. Les contrôles de la température ne sont pas systématiques, mais Alexandre en a profité pour se rassurer.
Ils nous ont donné de nombreux conseils pour éviter de tomber malade. Ils nous ont dit également de faire attention à notre température tout le temps, être vigilant.
All the time. Et se laver régulièrement les mains, utiliser des mouchoirs jetables, voilà pour les consignes sanitaires. Avant de rentrer à Shanghai où il travaille, Maxime a fait le plein de masques, également conseillé, lui relativise.
Apparemment, il y a beaucoup de places libres dans cet avion. Je pense qu'il y a beaucoup de désistements et les Français sont assez stressés. Ils ont des gants, ils ont des masques. Il y a une hôtesse qui a son gant s'est fait percer tout de suite. Elle a hurlé à une collègue de lui remplacer ses gants.
Le jeune homme note malgré tout une situation alarmante sur les réseaux sociaux chinois. Tout le monde s'y confine. La température est prise même dans les métros.
Marion Gauthier à Roissy pour Europe 1. Autre mesure de précaution en France, la décision par la mairie de Paris d'annuler les festivités du Nouvel An chinois avec un défilé qui était prévu dès cet après-midi, place de la République. Décision annoncée sur Europe 1 ce matin par la maire Anne Hidalgo.
J'ai rencontré hier la communauté chinoise de Paris qui a souhaité d'ailleurs annuler elle-même le défilé prévu cet après-midi place de la République. Mais pour autant, bien sûr que la situation en France n'est pas du tout de même nature. C'est le ministère de la Santé avec lequel on travaille. C'est bien sûr, il faut un pilote et un seul dans l'avion. Ce sont les autorités sanitaires qui ont mis en place des contrôles de l'accès, notamment à nos frontières dans les aéroports. Je crois qu'il faut bien sûr ne pas céder à la panique, mais en même temps être vigilant et puis respecter aussi la décision des associations chinoises de Paris qui n'avaient pas vraiment le cœur à la fête.
Anne Hidalgo, qui était l'invitée du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, la communauté chinoise qui n'a pas le cœur à la fête, dit à l'instant la maire de Paris, car c'est vrai qu'en Chine, la situation est bien plus préoccupante. 2000 personnes contaminées, 56 morts selon un dernier bilan. Les autorités multiplient les mesures pour éviter toute transmission du virus. Sébastien Lebelzig, vous êtes notre correspondant à Pékin.
Alors, trois gros porteurs sont arrivés ces dernières heures à Wuhan avec à leur bord 450 médecins militaires. Ce sont eux qui prendront en charge les malades dans les deux hôpitaux actuellement en construction dans cette ville toujours coupée du monde. Le périmètre de sécurité ne cesse de s'agrandir. Toutes les provinces chinoises sont maintenant placées en état d'alerte, ce qui signifie à la fois des mesures sanitaires comme l'interdiction de la vente d'animaux vivants sur les marchés, mais aussi le déploiement de militaires pour contrôler les déplacements entre les principales agglomérations, une sorte de cordon sanitaire pour contenir autant que possible la propagation du virus. Des mesures sans précédent dans l'histoire de la Chine. Cette mobilisation de l'armée chinoise intervient ainsi beaucoup plus tôt que lors de l'épidémie de SRAS en 2003. Pékin, Sébastien Lebelzig, Europe 1.
Et à l'instant, on apprend que Guangdong, la province la plus peuplée de Chine, impose désormais le port du masque à tous ses habitants. Retour en France avec Marine Le Pen qui doit faire un discours dans son fief d'Hénin-Beaumont. La présidente du Rassemblement national assiste à la cérémonie des vœux du maire de la ville, Steve Briouat. Steve Briouat qui n'a pas encore officiellement annoncé qu'il briguait un nouveau mandat, mais ses électeurs sont d'ores et déjà convaincus qu'il l'emportera sans problème. Maximilien Carlier.
Sur le parking d'un hypermarché, Isabelle pousse son caddie. Pour cette retraitée, Steve Briouat va être réélu.
Pour moi, c'est gagné. C'est sûr qu'il va passer. Il est très gentil, très aimable. Il peut nous voir, il va serrer la main. Il est toujours au marché, tout ça. Mais pour ça, on a un maire comme ça. Ouais.
Juste à côté, Jessica, elle apprécie les changements qu'il y a eu à Hénin-Beaumont.
On vit maintenant, c'est gai. Il y a plus de fêtes. Il a refait beaucoup de choses. Les écoles, la mairie, l'église. Enfin, pour moi, c'est un bon maire. Voilà.
Et face au maire sortant, il y a Marine Tondelier. Elle multiplie les tractages et le porte-à-porte.
Bonjour.
Son objectif, convaincre les électeurs frontistes.
On a créé un truc qui s'appelle Osons pour Hénin-Beaumont, pour créer un rassemblement qui soit large pour gagner la mairie.
Oui, mais bon, j'aime bien mon maire, donc il a fait pas mal de choses. La ville est beaucoup plus belle, on n'a rien à dire. Les Noëls, la ville décorée.
Mais est-ce que vous connaissez des gens qui sont sortis de la pauvreté, par exemple?
Il ne peut pas tout faire en même temps.
Les sympathisants du Rassemblement national ne reprochent pas grand-chose à Steve Briouat. Plusieurs cadres du parti s'attendent à ce qu'il soit réélu dès le premier tour, comme en 2014. Hénin-Beaumont, Maximilien Carlier, Europe 1.
À suivre, le procès en destitution de Donald Trump devant le Sénat à Washington. Hier, la parole était à la défense. Deux petites heures de plaidoirie et puis s'en vont, comme leur avait demandé Donald Trump.
Il est midi 39, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle.
Et la parole était donc à la défense hier dans le procès en destitution de Donald Trump. Procès qui a débuté mardi devant le Sénat à Washington. Procès que le président américain espère vite, voire très vite boucler. D'où les consignes très claires qu'il avait données à ses avocats, Xavier Yvon.
Deux petites heures et puis s'en vont. Les avocats de Donald Trump ont fait court pour leur première journée de plaidoirie. Ils ont en fait obéi à leur patron. L'ex-présentateur de télé-réalité voit son procès comme un show et il s'était plaint que ses défenseurs commencent un samedi. La vallée de la mort pour les audiences télé, avait tweeté Donald Trump. Alors ses avocats se sont contentés d'une bande-annonce de leur défense qu'ils développeront lundi et mardi.
The president did absolutely nothing wrong.
Le président n'a rien fait de mal, a commencé Pat Cipollini. L'avocat de la Maison-Blanche a ensuite expliqué aux sénateurs que les démocrates n'ont rien montré qui mérite de destituer un président pour la première fois de l'histoire.
Ils vous demandent non seulement d'annuler le résultat de la dernière élection présidentielle, mais ils vous demandent aussi d'enlever le président Trump des bulletins de vote pour la prochaine élection dans 9 mois.
Les avocats du président ont beaucoup tapé sur les démocrates, mais pas autant que leurs clients. Devant sa télé, Donald Trump les a traités via Twitter de menteurs, tricheurs, pleurnicheurs et idiots. Rendez-vous lundi pour le prochain épisode. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
Le journal des sports.
Avec Lénaïque Monnier, bonjour.
Bonjour à tous.
Et donc, je le disais, Roger Federer, on le suit à l'Open d'Australie parce qu'il était un petit peu en difficulté, vous m'avez dit dans le premier set, mais là, ça a l'air d'aller mieux.
Voilà,
hein.
Ça va un petit peu mieux. Il joue pour une place en quart de finale face au Hongrois Fuksovic, 67e joueur mondial. Jean Jomsi, vous êtes à Melbourne pour Europe 1. On le disait, ça va beaucoup, beaucoup mieux pour le Suisse qui avait mal débuté.
Effectivement, ça va mieux pour le Suisse qui avait passé, on s'en souvient, plus de 4 heures sur le court vendredi soir devant l'Australien John Millman. Il a paru plus lent qu'à son habitude en début de match, moins précis dans ses déplacements, approximatif dans ses coups. Il a subi le jeu de son adversaire pour concéder le premier set 6-4, mais le Suisse a réagi. Depuis le début du deuxième set, il semble plus véloce, il sert mieux, il maîtrise mieux ses accélérations. Résultat, il a survolé le deuxième set 6-1 en juste 27 minutes. Il mène 4-2 dans le troisième set. Attention, il vient de perdre un de ses deux breaks de retard. Il maîtrise toujours plutôt bien la situation, Roger Federer, qui joue pour donc une place en quart de finale où il affronterait l'Américain Tennis Sandgren.
Merci Georges-Ancy en direct de Melbourne. Federer qui, on le rappelle, a déjà eu au tour précédent un match en 5-7. À 38 ans, ça peut compter dans les jambes.
Et oui, mais c'est quand même quelqu'un qui nous fait toujours autant rêver. Hein. Et absolument. Du foot avec Lille PSG, c'est ce soir à 21h. Lille, seule équipe invaincue cette saison.
Voilà un challenge intéressant à relever pour le leader, le PSG, faire tomber la meilleure équipe de la saison à la maison et surtout rattraper le match de l'année dernière où les Lillois l'avaient emporté 5-1, d'où une certaine méfiance de la part de Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien.
C'est la meilleure équipe à domicile en ce moment. Et pour ça, on attend un match difficile, on attend un adversaire avec beaucoup, beaucoup de qualité. Normalement dans un 4-4-2, très serré, très discipliné, avec beaucoup de qualité en transition, beaucoup de qualité offensivement. Beaucoup de choses d'être attentif et c'est bien pour nous, grand challenge, grand défi. Et j'espère vraiment que nous sommes prêts pour ça demain.
Thomas Tuchel avec Julien Froment. Le match débute à 21h. Il est à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1.
Et une heure avant le coup d'envoi, c'est Christophe Galtier qui sera face aux auditeurs d'Europe 1.
Le LOSC, actuellement 6e du classement, encore trop loin d'une place pour la Ligue des Champions, qui est l'objectif après l'élimination précoce cette saison. Écoutez Christophe Galtier, l'entraîneur de Lille.
Pour que cette compétition soit bénéfique, il faut y revenir très rapidement. Ça serait vraiment très intéressant pour le projet automatiquement et pour les jeunes qui constituent l'effectif. Être ambitieux, ce n'est pas être prétentieux. Il faut toujours être ambitieux dans la vie. Il faut viser la Champions League. Si on n'arrive pas, il faudra au moins se retrouver en Europa League. Voilà, il faut toujours beaucoup, beaucoup travailler pour atteindre le sommet le plus haut.
Christophe Galtier face aux auditeurs dès 20h donc, et les autres matchs de la journée, les voici: Lyon-Toulouse 15h, Nantes-Bordeaux à 17h. D'un mot, le ski avec le slalom de Kitzbühel. Après la première manche, les Français sont plutôt bien placés, à l'image d'Alexis Pinturault, 5e à 62 centièmes du leader surprise, le tout jeune Norvégien Lucas Braten, 19 ans.
Merci beaucoup Lénaïque Monnier. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce dimanche.
Pour une installation soignée de vos fenêtres, portes et volets, faites confiance à ArcadeB. ArcadeB vous présente la météo.
Et toujours beaucoup de pluie dans le sud cet après-midi, Valérie Darmon.
Absolument Fabienne, et au fil des heures, les pluies méditerranéennes se décalent lentement vers l'est et elles évacuent l'Hérault pour se diriger vers la Côte d'Azur. Elles quitteront le pays en toute fin de journée. Ces précipitations qui glissent aussi vers l'est, vers le nord-est, où les brouillards et les nuages bas tentent un peu de se morceler, tandis qu'une nouvelle perturbation pluvieuse aborde la pointe bretonne en ce moment. D'ici ce soir, c'est tout le quart nord-ouest qui sera arrosé, la Normandie, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, la Bretagne. Le vent se renforce aussi dans la journée sur le sud de la Bretagne et les côtes de la Manche pour atteindre 70 km/h en pointe. Seul le sud de l'Aquitaine, les bords de la Méditerranée, du côté du Roussillon cette fois, bénéficient d'un peu plus de soleil. Les maximales sont de l'ordre de 6 à 11 degrés sur la moitié nord de la France, 12 à 15 sur le sud, 15 à 16 sur le Pays Basque et sur la Corse, ces valeurs qui sont en hausse.
Merci beaucoup Valérie Darmon. À suivre, il y a 75 ans, le camp d'Auschwitz s'était libéré par l'armée rouge. 200 rescapés seront présents en Pologne demain pour témoigner. Un témoignage vraiment exceptionnel dans un instant, celui de Ginette Kolinka, rescapée à près de 95 ans. Elle accompagne toujours chaque année des lycéens à Auschwitz. Elle leur raconte ce qu'elle a vécu pour qu'ils soient des passeurs de mémoire.
Midi 48, le journal de la mi-journée se poursuit jusqu'à 13h avec à présent votre invitée Fabienne Lemoyle.
Et il y a 75 ans, le camp d'Auschwitz-Birkenau était libéré par l'armée rouge, camp symbole du génocide nazi avec plus d'un million de morts rien que dans ce camp. Bonjour Ginette Kolinka.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous en studio à Europe 1. Vous avez été déportée en avril 1944 à Auschwitz-Birkenau avec votre petit frère Gilbert, 12 ans, votre père, votre neveu, dans le même convoi que Simone Veil et Marceline Loridan. Vous aviez 19 ans à l'époque. Vous êtes la seule à être revenue de ce camp de la mort. Il y a quelques jours, vous étiez encore à Auschwitz avec un groupe de lycéens normands. Pourquoi aujourd'hui, à presque 95 ans, c'est capital pour vous d'accompagner ces jeunes à Auschwitz et de leur raconter ce que vous avez vécu là-bas?
C'est important. Comment voulez-vous que ceux qui ne vont pas là-bas se rendent exactement compte de ce que c'était? Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de mots assez puissants pour dire ce que la haine a fait. Hitler haïssait les Juifs, il voulait les tuer tous. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils ont préparé à l'avance tout ce qu'ils voulaient nous faire subir. Et il y a un lieu que je veux toujours montrer aux visiteurs, c'est le lieu des ans. Comment des êtres humains ont pu penser à faire des choses comme ça? Des gens qui vont faire leurs besoins côte à côte, dos à dos, dans une salle commune. Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à accepter.
Quand vous emmenez ces jeunes à Auschwitz, vous leur dites « fermez les yeux ».
Oui, et moi aussi je les ferme d'ailleurs.
Pourquoi?
Non, je leur dis « fermez les yeux » parce que ce que l'on voit, mais c'est pas Birkenau. On voit rien. Birkenau est un cimetière, le plus grand cimetière du monde. Les nazis se sont débrouillés pour ne pas laisser une seule trace des morts qu'il y a eu là-bas. Seulement, si vous êtes avec quelqu'un qui est passé par là, chaque pas que vous faites, il y a quelqu'un qui est tombé là. Tombé sous les coups, mort, évanoui, ensanglanté. Nous, on a connu que la crasse, on a connu que la férocité, que la bestialité. Mais maintenant, vous allez là-bas, vous ne voyez rien de tout ça. Alors je leur dis, fermez les yeux, écoutez-moi et imaginez.
Quelle image vous reste et vous leur racontez?
Par exemple, qu'est-ce qu'ils comprennent quand je dis on était battus? Je pense qu'eux voient, ils ont reçu des gifles par leur maman, voilà, une gifle. Non, quand moi je dis on était battus, l'image que j'ai, c'est la personne qui est battue, qui arrive à en tomber par terre au pied de celle qui la bat et qu'elle continue à la battre à coups de pied, à coups de bottes, à coups de schlag, jusqu'à ce que, ou morte, ou évanouie, on ne le sait jamais parce qu'on n'est pas là à attendre la fin du spectacle. Moi, voilà ce que c'est que je dis, on est battu.
Quand vous arrivez ce 16 avril 1944, que vous descendez de ce train de marchandises, qu'est-ce que vous dites, Ginette Kolenka?
On ne se dit rien. On est abruti du voyage que l'on a fait enfermé dans ces wagons. Surtout que nous, dans notre wagon, on n'avait pas de chance, on n'avait pas de fenêtre. Donc l'air passait très très mal. On était donc dans la puanteur, dans l'obscurité. Et quand on est descendu des wagons, pour moi c'est un très mauvais souvenir. Je suis assise sur le sol du wagon pour sauter sur le quai, quand les officiers qui sont là hurlent quelque chose, les personnes qui sont malades, les personnes qui sont fatiguées, les personnes qui ne veulent pas marcher, le camp est éloigné de l'arrêt du train. Moi j'entends ça, papa, Gilbert, montez dans
Gilbert,
le camion.
Gilbert, c'est votre petit frère.
Mon petit frère, il s'était trouvé mal, alors ils m'ont écouté, je me suis retournée, j'étais déjà plus là. Je voulais leur faire un petit bisou, même pas. Tous ces messieurs, sans arrêt, nous répétaient « Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous allez vous retrouver dans le camp. » Et puis, quand on est arrivé à proximité du camp, moi, j'ai vu des cheminées, de la fumée. J'ai pas le temps de leur dire au revoir. Déjà, on les a entraînés vers les camions. Parce que je me sens fautive de leur avoir dit de monter sur le camion. Mais en réalité, de toute façon, pour les nazis, ils voulaient bien nourrir les juifs à condition qu'ils travaillent. Ça, c'est des choses qu'on a réalisées après.
Et quelques heures plus tard, quand une mère va demander où est passé son fils, la réponse qu'on vous donne est terrible.
Exactement.
On vous dit quoi?
La fumée, l'odeur, c'est eux. Bah, est-ce que vous leur avez cru, vous? Est-ce que vous avez cru quand les gens ont raconté ça? On ne peut pas croire des choses comme ça. On a assassiner des bébés, des enfants, des gens, uniquement parce qu'ils étaient juifs. Comment que ces hommes ont-ils pu faire des choses comme ça? Mais c'est pour ça que je fais une campagne. Mon cheval de bataille, c'est la haine. Hitler a entraîné son peuple à haïr. Et ils l'ont écouté.
Ginette Colinka, vous qui accompagnez ces élèves à Auschwitz, vous qui allez dans les classes leur raconter la réalité de la Shoah, quand vous voyez ce sondage cette semaine qui dit qu'une personne sur quatre de moins de 38 ans n'a jamais entendu parler de la Shoah, votre réaction ?
Mais ça ne m'étonne pas. Si personne n'a été touché par cette histoire dans leur famille, mais c'est important que ceux qui m'ont écouté racontent. C'est vrai que quand je vais dans les établissements scolaires, je leur dis, vous devenez des passeurs de mémoire, il faut que vous en parliez, il faut que les gens sachent où peut mener la haine. Écoutez, je suis rentrée après avoir été un mois en Tchécoslovaquie, dans un hôpital où on a dû me nourrir artificiellement. Eh bien, quand je suis rentrée à Paris, eh bien, je me suis pesée et je pesais 26 kilos.
26 kilos.
Alors que quand j'ai été arrêtée, j'en pesais 66.
Comment on survit à ça, Ginette Colinka ?
Je ne peux pas parler pour les autres. Moi, j'ai eu la chance, la très, très grande chance de retrouver ma mère et mes sœurs. Ça fait une très grande différence avec ceux qui n'ont retrouvé personne.
Deux dernières questions, Ginette Colinka. Vous dites que quand vous retournez à Auschwitz, vous avez toujours la même pensée pour votre père, pour votre petit frère.
Ça, c'est un remords qui ne me quittera jamais. Avec le même remords que quand j'ai dit à ma mère, sans prendre de précautions, qu'elle ne reverra jamais son mari ni son fils parce qu'on les avait gazés et brûlés leur corps.
Je vais finir avec ces mots dans le livre où vous racontez ce retour à Birkenau. « Si aujourd'hui, à 94 ans, je suis comme je suis, je le dois à ces voyages, aux sentiments et aux élèves qui vont nous remplacer quand nous ne serons plus là. Merci à eux. »
Exactement. On les passe, je les appelle, et mes camarades aussi, des passeurs de mémoire. On compte sur eux pour qu'ils en parlent. Moi, j'aimerais bien être dans l'appartement d'un de ces jeunes qui sont là, et puis leurs parents. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et qu'il dit, ah ben, il y a une dame qui est venue nous parler. Et je dis aux élèves, vous avez le droit de discuter avec vos parents s'ils sont antisémites, s'ils sont racistes. Vous avez le droit d'expliquer qu'ils n'ont pas le droit. On n'est que des êtres humains et on a tous des qualités, on a tous des défauts. Et si on s'acceptait, si on ne se croyait pas supérieur à l'autre parce qu'on est comme ci ou inférieur parce qu'on est comme ça, peut-être qu'il n'y aurait pas ce racisme, cet antisémitisme.
Merci infiniment Ginette Colinka d'avoir été avec nous à Europe 1. Merci pour votre parole si précieuse, une parole qui nous oblige, qu'il faut transmettre, vous l'avez dit, qu'il faut absolument lire à travers ce récit. Retour à Birkenau chez Grasset que vous avez écrit avec Marion Ruggieri et que j'invite tous nos auditeurs à lire, vraiment. Merci beaucoup.
Merci à vous.